Voilà, bonjour à tous et toutes, à tous c'est beaucoup dire, je vois que l'heure convient davantage aux dames qu'aux messieurs, mais bonjour à Paul pour ce cours sur les paraboles. Je n'ai jamais donné un cours sur les paraboles comme telles, bien sûr, ayant circulé pas mal dans les évangiles, j'en ai croisé et commenté beaucoup lors de mon travail à l'IET. Je vais suivre les feuilles que je vous ai données, ça va ? Tout le monde a eu un exemplaire ? J'ai d'abord repris, je vais commenter très brièvement, le texte que j'avais mis sur le site. Le langage parabolique est connu du Premier Testament. Quand on dit Premier Testament, c'est une manière de souligner, premier, second, la continuité des deux testaments. Quand on dit ancien et nouveau, il ne faut pas durcir l'opposition comme si l'ancien était périmé. Mais donc, c'est la portée de l'expression Premier Testament, de faire comprendre qu'il n'y a qu'un dessein de Dieu, lui, qui se déroule bien sûr en deux temps, avec la nouveauté du Christ. Mais alors, dans le Premier Testament, ce sont surtout les écrits des prophètes et des sages. On verra quelques exemples qui utilisent volontiers un langage parabolique ou imagé. Mais c'est Jésus qui en intensifie l'usage. Je dis bien Jésus, c'est surtout dans les évangiles. Exclusivement, pratiquement, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qu'on va rencontrer des paraboles. Le mot ne se trouve pas ailleurs dans le Nouveau Testament, sauf à deux endroits, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 9, où il qualifie de parabole le culte et les sacrifices anciens, notamment le jour du grand pardon du Yom Kippour, qui était comme une parabole, nous dit-il, d'un accomplissement plaigné dans le sacrifice du Christ. Et puis alors, en 11-19, dans la lettre aux Hébreux, il utilise aussi le terme pour dire que la manière dont Abraham recouvre son fils Isaac était comme une parabole, déjà, de la résurrection du Christ. Si l'on comprend bien le texte, ce qu'il nous dit entre les lignes. Mais en dehors de ça, c'est dans les évangiles synoptiques qu'on trouve l'usage du mot, qui tantôt est dans la bouche de Jésus lui-même, comprenez-vous la parabole, etc. Tantôt dans la bouche des disciples, explique-nous la parabole. Tantôt dans la bouche de l'évangéliste, il leur parlait en parabole. Donc aussi bien Jésus que les disciples, que l'évangéliste, et on peut penser que Jésus lui-même a utilisé le mot pour qualifier le genre littéraire qu'il pratiquait. Et les évangiles synoptiques, on entend par synoptique, on verra le sens de ce terme, les trois évangiles qui présentent un certain nombre de similitudes, Matthieu, Marc et Luc, Jean étant sensiblement différent, et bien les évangiles synoptiques nous offrent beaucoup de paraboles, plus d'une quarantaine. Et elles sont d'une riche variété, isolées ou enfilées comme les perles d'un collier, par exemple en Matthieu 13, où Jésus enfile des images autour de la notion de semaille, le bon grain est livré, le grain de moutarde, etc. Donc parfois elles sont enfilées, ou bien chez Luc, au chapitre 15 par exemple, où Luc enfile la parabole, l'image de la brebis perdue et puis est retrouvée, la drachme perdue est retrouvée, le fils perdu est retrouvé. Intentionnellement, il enfile les trois. Donc, elles peuvent être enfilées comme les perles d'un collier, elles peuvent être brèves, le trésor caché dans le champ, la perle, ou bien déployées, comme celles qu'on a entendues dans la liturgie d'hier, les ouvriers de la 11e heure. Elles peuvent être plus ou moins surprenantes, provocantes, hein, de l'homélie, du père comique, voilà, s'attaquer au problème du sentiment d'injustice que cette parabole peut nous laisser et qui nous force à réfléchir plus loin ce que Jésus veut dire. Donc elles sont parfois un peu provocantes. Elles partent de réalités pastorales, des histoires de bergers, de brebis, agricoles, des histoires histoire de semaille, de champ, ou domestique, une femme qui a perdu une drachme dans sa maison et qui la recherche, ou bien qui pétrit la pâte et le levain monte. Alors elles peuvent engager des figures féminines ou masculines. Par exemple, des figures féminines, la femme qui pétrit le vin dans la pâte, la femme qui cherche sa drachme, les vierges sages et les vierges insensées, la veuve importune qui réclame justice auprès du juge. Elles initient au mystère du royaume des cieux, en donnant l'esprit général, ou bien parfois elles sont reliées à un contexte évangélique précis. Jésus disait à l'intention de certains qui se considéraient comme des justes, etc., et qui jugeaient ceux auxquels il faisait miséricorde, puis dans les paraboles de Luc 15, j'évoque. Non content d'énoncer des paraboles, raconter l'histoire, et d'en dégager le sens, spécialement pour ses disciples, Jésus s'explique aussi sur la raison d'être du langage parabolique. Pourquoi il parle en parabole ? On verra ça. Dans sa portée et ses exigences pour ceux qui l'écoutent, qui a des oreilles, qui l'entendent. Dans sa portée, parce que le langage parabolique veut nous instruire, nous éclairer, faire comprendre des choses, mais aussi ses exigences. Le langage parabolique doit nous appeler, nous stimuler, nous interpeller, nous convertir. La première des paraboles, la première des longues paraboles, on le verra, qu'on trouve dans les trois, c'est la parabole du semeur. C'est comme une parabole du seuil préliminaire. Jésus dit d'ailleurs, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Parce qu'elle concerne la réception même de la parole du Seigneur, qu'elle soit parabolique ou autre. Donc elle illustre la réception plus ou moins fructueuse, souvenez-vous, du fruit 30, 60, 100, de la parole semée largement, invitation aux dispositions requises pour accueillir toute parole de Jésus. Après un aperçu d'ensemble, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je dirai un mot de ce que indique déjà un premier regard synoptique de comparaison, et puis je lirai avec vous un bon article du vocabulaire de théologie biblique, qui est très bien fait et que je commenterai un peu au passage. Après un aperçu d'ensemble, donc, nous approfondirons un certain nombre de paraboles, mais pour mieux nous en laisser interpeller. Nous découvrirons des élaborations fines. On verra que les récits sont quand même construits, qu'il y a des détails importants parlant, des thématiques plus marquées chez tel ou tel évangéliste. Ne s'étonnera pas de voir Saint Luc mettre en scène, enfin, nous montrant Jésus, mettant en scène des histoires qui invitent au détachement, au partage, à la miséricorde, le bon samaritain, à la prière, persévérance. Ce sont tous des thèmes qui sont chers à Luc et qu'on va trouver dans des paraboles qui lui sont propres. Le langage parabolique s'y prétend, nous apprécierons ses échos dans quelques contrepoints picturaux ou chantés. Je vous donnerai parfois quelques représentations visuelles des paraboles, ou bien, à la fin de cette leçon, je vous chanterai une chanson sur la parabole du semeur. Concrète, les paraboles donnent à entendre, voir, goûter, sentir. J'ai repris des termes qui font écho à ce que Saint Ignace appelle l'application des sens dans la prière, c'est-à-dire se rendre vraiment présent à ce qui se passe sur la scène du récit, mais aussi le récit dans le récit qui est une parabole, se rendre présent en entendant ce que disent les personnages, en les voyant, en goûtant, en sentant ce qu'ils disent. Mais aussi, elle donne à réfléchir, à comprendre et aussi à prier. C'est dans la prière que s'intériorise alors la valeur d'appel, d'interpellation pour vous. Je vous ai remis en bas de la page le rappel du calendrier avec les dates. Je prends la deuxième page. Je commence par là, les paraboles des évangiles synoptiques. Je tire certains tableaux d'un cahier évangile, donc celui que vous avez sous les yeux, d'un cahier évangile. C'est une collection bien faite. Évangile, en fait, c'est beaucoup plus large, ça parcourt des écrits de l'Ancien Testament, des Nouveaux, mais enfin, il y a à chaque fois un cahier consacré à un livre biblique ou parfois des suppléments consacrés à des thèmes. Ici, c'est un cahier consacré aux paraboles. Voilà. C'est le cahier évangile numéro 75 et c'est une publication du CERF. Lorsque vous devez étudier plus précisément un livre, un thème, vous pouvez toujours commencer par aller voir les introductions de vos Bibles, dont l'introduction à l'évangile de Jean, dans la top, et puis vous repérez dans la collection cahier évangile, le cahier qui concerne Saint-Jean, et d'habitude c'est fait par quelqu'un qui est davantage spécialisé dans la question, et c'est très pédagogique. C'est de là que s'est tiré ce tableau synoptique. Alors qu'est-ce qu'une synopse synoptique, il y a un regard qui met ensemble, synoptique, qui met ensemble trois évangiles davantage comparables, Matthieu, Marc et Luc. Et une synopse des évangiles, j'en ai une ici, une des plus courantes, c'est celle de Lucien Deiss, qui était un bon bibliste et liturgiste. Il y en a d'autres plus techniques, je mangeais une synopse aussi sur le texte grec lui-même, mais une synopse courante, accessible en français, et celle de Lucien Deiss. Si certains sont intéressés à quelconque une synopse, ils me le diront, alors je fais une commande coupée par la bibliothèque. Je ferme la parenthèse, donc la synopse de Lucien Deiss se présente avec trois colonnes qui donnent chaque fois, pour une section de l'évangile, les versions des trois évangiles. Mais évidemment, les trois colonnes ne sont pas toujours remplies. Quand elles sont toutes les trois remplies en parallèle, ça veut dire que l'épisode, le passage en question, se trouve chez les trois évangélistes. S'il y a, comme au début de cette page, que deux colonnes remplies, je vois que c'est chez Matthieu, chez Marc, et là, ça ne se trouve pas chez Luc, pour le coup. Ici, je vois un passage où il y a un long texte, ici, et puis deux petites colonnes vides, ça veut dire tout ceci ne se trouve que chez Matthieu. Mais il n'a pas son équivalent ni chez Marc ni chez Luc. Ou ici, c'est chez Matthieu, chez Luc, mais pas chez Marc au milieu. Donc c'est toujours dans l'ordre Matthieu, Marc, Luc. C'est l'ordre dans lequel vous retrouvez les évangiles respectivement dans l'évangile. Alors si on regarde ce tableau, voyez qu'en tête, on a les paraboles de Marc. En fait, ils ont dit de Marc, mais vous voyez bien rapidement qu'il y en a six d'abord qui sont communes aux trois. On trouve chez Marc, chez Matthieu, chez Luc. Et puis, il y en a quand même deux en bas de la colonne de Marc, là, dans cette partie gauche. La semence qui pousse toute seule et le portier, et voilà, ça ne se trouve que chez Saint Marc. Précieux à savoir parce que Saint-Marc a très peu de passages qui lui soient propres, qui ne se trouvent pas chez les autres. Mais en voilà deux petits qu'on ne trouve que chez lui. Alors les autres qui se trouvent chez les trois, vous voyez, on suit un peu l'ordre des évangiles, elles se présentent sensiblement dans le même ordre, si on veut, dans les trois évangiles. Ici, ils ont mis d'abord la colonne de Marc, puis celle de Matthieu, puis de Luc. Les deux premières, le vêtement rapiécié, le bain nouveau, disent la nouveauté du royaume qui arrive. Et puis on a la parabole un peu fondatrice, comme je disais, le semeur. C'est la première longue parabole, qui présente une histoire déployée sur plusieurs versets. Vous voyez que le vêtement rapiécié, le bain nouveau, ça tenait en un ou deux versets. Ici, on a plusieurs versets. Et chez Matthieu, après, on aura encore longuement l'explication. La graine de moutarde, et puis les vignerons révoltés, le figuier qui annonce l'été. Là, on approche dans l'évangile, on avance dans les évangiles, au seuil de la passion. Voilà pour le fond commun aux trois. Il y en a six qu'on trouve chez les trois. Puis il y en a dix qu'on ne trouve que chez deux, Matthieu et Luc. Je fais un petit détour par ce que vous avez en bas de la page pour que vous compreniez bien pourquoi un certain nombre de passages ne se trouvent que chez Matthieu et Luc. Ils sont ensemble. C'est ce qu'on appelle la théorie des deux sources, c'est-à-dire qui dit à la base des évangiles de Matthieu et de Luc, il y aurait deux sources. D'une part, l'évangile de Marc, peut-être pas dans sa forme définitive, mais dans tout son matériau qui aurait été un peu antérieur, et qui aurait influencé aussi bien Matthieu que lui. Alors ça, évidemment, ça expliquerait ce qu'ils peuvent avoir en commun, les passages qu'ils ont tous les trois. Mais il y a une autre source, deux sources, pas bien, une autre source qu'on a appelée Q. C'est expliqué dans l'enquête du terme allemand Quell, qui veut dire source, et qui est un document qui aurait contenu essentiellement des paroles de Jésus. Donc on l'appelle parfois la source des logia, les paroles de Jésus. Tandis que Marc est un évangile très narratif, surtout. On a surtout des récits. On a peu de discours chez Marc comparé à Matthieu et Luc. On a moins de paroles. Ce qui veut dire que les paroles que Matthieu et Luc ont en commun, ils les tiendraient du fait qu'ils puissent tous deux à cette source Q. Tandis que Marc n'y a pas accès, mais voilà, il est davantage narratif. Alors, donc, une source de paroles qu'on reconstitue hypothétiquement, mais enfin avec quand même une bonne crédibilité scientifique, qui aurait nourri le fond de Matthieu et de Luc, et qui expliquerait, cette fois-ci, des passages qu'on ne trouve que chez ces deux-là, ensemble.
D'après leur mémoire. La mémoire de Matthieu.
Donc, ce qu'ils ont en commun ici, c'est ce qu'on appelle parfois la triple tradition, les trois, et ce que Matthieu et Luc ont en commun, c'est la partie du tableau dans laquelle nous arrivons, c'est ce qu'on appelle parfois la double tradition. Et donc, ce qui est intitulé parabole de la source des logia, donc qui viendrait de là, et qu'on trouve chez Matthieu et Luc, voilà, elles sont reprises, là, je ne m'y attarde pas. Vous voyez que la présentation suit leur ordre d'apparition dans l'évangile de Matthieu. D'abord, c'est le chapitre 5, 7, 11, 12, etc. Mais qu'elle se trouve aussi chez Luc, mais en ordre plus dispersé. 12, 6, 7, 11, 13, 15, 14, 12, etc. Donc, elles ne suivent pas nécessairement, dans le déroulé de leurs évangiles respectifs, la même enfilade. Ça dépend du projet d'ensemble d'un évangéliste. Puis, il y a encore des paraboles qu'on ne trouve que chez tel ou tel, parce que, en fait, Matthieu a aussi eu recours à des traditions qui lui sont propres, et Luc, de son côté, la même chose. Et qui explique qu'il y a des paraboles qu'on ne trouve que chez l'un ou l'autre. Hein. Triple tradition, double tradition, unique tradition, si je puis dire. Et là, vous voyez qu'elles sont quand même assez nombreuses. Chez Matthieu, il y en a 8. Notamment, vous voyez, ça commence par 4 qui se trouvent au chapitre 13. Livré dans le champ, le trésor caché, la perle, le filet. Parce que le chapitre 13, chez Matthieu, dans les discours qui scandent son évangile, c'est ce qu'on appelle le discours en parabole, précisément. Où il a manifestement regroupé les paraboles. Et en ajoutant à d'autres qu'il partage avec les autres, quelques paraboles qui lui sont propres. Le débiteur impitoyable, etc. Donc, 8 paraboles qui sont propres à Matthieu. Et puis chez Luc, la partie de droite du tableau, vous voyez que sont bien propres et considérables. D'abord, l'évangile de Luc est celui qui a le plus de passages qui lui sont propres. Chaque évangéliste a des passages qui lui sont propres. Notamment les évangiles de l'enfance, par exemple chez Matthieu, chez Luc, ne sont pas les mêmes comme accent. Mais chez Luc, il y a un bien propre qui couvre pratiquement la moitié de son évangile. Et dans ce bien propre, où Luc déploie des accents qui lui sont chers, il y a toute une série de paraboles. Alors vous voyez déjà, si on parcourt rapidement, je ne parcours pas tout, mais je souligne le fait que il y a des thèmes qui lui sont chers. Par exemple, l'insistance sur la compassion, la miséricorde. Le premier, les deux débiteurs, c'est la scène où chez Simon le pharisien, Jésus fait miséricorde à la pécheresse et aide Simon à avoir le cœur moins dur. Le bon samaritain, bien sûr, c'est chez lui. Ou bien le riche et Lazare, la quatre lignes avant la fin, le riche et Lazare, on voit que le riche a le cœur dur, et en même temps, donc il y a le thème de la compassion, de la pitié, et en même temps, il y a le thème de l'attachement au bien qui est important chez Luc. Et ça, vous trouvez dans la question l'histoire des deux débiteurs, de nouveau. Jésus prend une image avec des sommes, des chiffres. Et puis, le riche et ses greniers, dans la quatrième, le riche qui accapare, le bien matériel. La femme dans la maison, elle recherche une drachme perdue. Bon. Et puis, le riche et Lazare, surtout au chapitre 16, bien sûr. Donc, on voit dans les paraboles qui lui sont propres déjà affleurer quelques thèmes qui sont chers à Luc. Et qui ne se trouve pas seulement dans ces paraboles, mais aussi dans des portions de récits. Rien qu'à prendre des paraboles, on les voit déjà un peu apparaître. Voilà pour ce survol d'ensemble. Puis je prends maintenant, si vous le voulez, l'article, la notice, dans le vocabulaire de théologie biblique. On tire page. On passe page 4 dans le dossier, ça va ? Vocabulaire de théologie biblique. Je vous ai mis les références. C'est un ouvrage déjà ancien, il y a plus de 50 ans, mais qui est régulièrement réédité, vu sa valeur. Là, ici, à la bibliothèque, on avait une version plus récente que celle que j'ai en chambre, enfin, l'article est le même, mais qui est mieux présenté. Elle date de 2009 et c'est la 13e édition. C'est sous la direction de Xavier Léon Dufour. Léon Dufour, c'est son nom de famille, qui était un jésuite, mais il a toute une équipe de collaborateurs, et d'ailleurs l'article en question, on voit bien, il l'a bien sûr comme gérant l'entreprise d'ensemble, il a supervisé et relu, mais il est signé, vous voyez, au bas de la page 4, il y a deux initiales, DS, qui disent très discrètement qui est l'auteur de la notice, et en début de volume, vous avez la liste des collaborateurs, et ouais, c'est un certain Daniel Sesboué, qui est un exégète bien connu par ailleurs. Donc, un vocabulaire de théologie biblique, ce que c'est, ça présente des notices plutôt thématiques et qui sont classées par ordre alphabétique, simplement. Et ici, il y a deux pages, comme c'est sur deux colonnes, ça fait à peu près quatre colonnes consacrées au thème des paraboles. Mais si je le prends, ici dans le livre, vous voyez, il s'insère dans l'ordre alphabétique. On a le vocable « paix » du notice, le vocable « Pâques », bien sûr, il y a beaucoup à dire en termes de Bible, et puis on arrive au vocable « parabole ». Et puis le suivant, ça sera « paraclet », »,« paradis », etc. Donc c'est par ordre alphabétique, et c'est précieux, c'est généralement bien fait, ça va à l'essentiel, et c'est toujours construit, une petite introduction générale, et puis on fait un parcours dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament, en distinguant au besoin d'abord les évangiles, et puis les actes et Paul. Ici, la notice va s'intéresser, bien sûr, s'agissant de paraboles, aux évangiles. Voilà l'organisation de la notice. Je la lis avec vous en commentant quelques expressions. Jésus utilise, on appelle parabole, depuis l'Église primitive. Je vous ai dit, le vocable s'entend dans la bouche de Jésus, des disciples, mais aussi des évangélistes, première décennie après. Depuis l'Église primitive, une histoire racontée par Jésus pour illustrer son enseignement. Illustrer, oui, le mot est peut-être encore un peu faible. Appuyer, compléter, parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire que sous l'image parabolique. À la base du mot grec parabolé, il y a l'idée de comparaison. Parabolé. Ça vient du grec parabalo. Ballo, ça veut dire jeter, comme le discobol. Jeter. Et para, ça veut dire notamment à côté. Donc, ce qui est posé, jeté, mis à côté, en parallèle. Une parabole, d'ailleurs le mot parallèle, vous voyez, utilisé aussi ce préfet, une parabole est là comme à côté de la situation vécue, à côté de la réalité que Jésus veut faire comprendre, mais pour l'illustrer et l'approfondir. Ça, c'est le sens premier du mot parabolé. Et il est utilisé dans l'Ancien Testament. Il traduit, vous savez que l'Ancien Testament est écrit essentiellement en hébreu. À un moment donné, il a été traduit en grec. Et le mot de l'Ancien Testament qui désigne notamment les paraboles, mais qui a un sens très large, parabole, énigme, image, devinette, etc. Le mot macha est traduit très souvent dans le grec par le mot parabolé. Donc c'est déjà le mot utilisé dans l'Ancien Testament pour rendre compte d'un certain nombre de macha. À la base du mot grec parabolé, il y a l'idée de comparaison. Certes, le génie oriental aime parler et instruire sous forme de comparaison. Pas seulement oriental, hein, dans la culture africaine, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il y a quand même, on raconte pas mal d'histoires qui visent à faire comprendre les choses. Ce génie affectionne aussi l'énigme, qui veut piquer la curiosité, une sorte de devinette, volontairement un petit peu cryptique, un peu cachée, au départ, piquer la curiosité, inciter à la recherche. De ses goûts, les livres bibliques, notamment les sentences des sages, nous donnent l'écho. Alors au passage, vous avez des références, donc elles sont simplement données. Et c'est pour éviter de surcharger l'article, on ne les cite pas, mais ça vaut toujours la peine d'aller voir. Par exemple, Proverbe 12, 4, en exemple, les sentences des sages, « Une maîtresse femme est la couronne de son mari, mais une femme indigne comme une carie dans ses os. » Voilà une image familière du style des proverbes. Ou bien, une énigme, en Juge 14-14, qu'est-ce que c'est? C'est l'énigme de Samson. Samson avait tué un lion, et puis il repasse, et dans la carcasse du lion mort, s'était niché un essaim d'abeilles. Il en a recueilli le miel, ça c'est la base. Et alors il propose une énigme en disant à son entourage, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Et il laisse 3 jours à ses interlocuteurs pour essayer de trouver, et puis finalement c'est sa femme qui trahit le secret. Bon. Donc c'est pour dire que le genre d'énigme, de devinette, ici pour une réalité anodine, mais qui peut être un ressort de suspense pour des réalités plus profondes, eh bien est déjà présent dans l'Ancien Testament. Ce n'est pourtant pas là l'essentiel pour expliquer le genre parabolique. Il faut comprendre la parabole comme la mise en scène, donc la mise en récit de l'histoire, de symboles, c'est-à-dire d'images tirées des réalités terrestres pour signifier les réalités révélées par Dieu. L'histoire sainte, le royaume de Dieu est comparable, etc. L'histoire sainte, dans la parabole des vignerons homicides, Dieu qui envoie des premiers pour recueillir les fruits de la vigne qui se font maltraiter et puis de second, etc. Mais ça signifie dans l'histoire sainte l'envoi successif des prophètes dont certains sont mis à mort et puis ça sera le Fils lui-même. Donc on parcourt les réalités de l'histoire sainte. Et ces réalités nécessitent la plupart du temps une explication en profondeur. Le passage de réalités concrètes, terrestres, à des réalités plus spirituelles, est analogue en poésie au ressort qui joue entre les poètes utilisent des images. C'est-à-dire, ils signifient des réalités affectives, souvent, à travers des images ou des réalités extérieures. Des poèmes de Verlaine, etc. Un paysage brumeux, sombre, glauque, évoque un état d'âme complètement nostalgique, etc. C'est le ressort du rapport entre des réalités perceptives, tangibles, que nous connaissons, et des réalités plus cachées, plus profondes, soit la sensibilité poétique ou plus profondément encore des réalités spirituelles. Les symboles dans l'histoire sainte. Dès le début de son histoire, Israël se trouvait devant cette gageure de parler avec une mentalité très concrète du Dieu transcendant qui n'admettait aucune représentation sensible. Souvenez-vous, en Israël, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de sculpture. Ils ont développé grandement le chant, la musique à travers les psaumes et la littérature à travers les textes bibliques. Mais Dieu ne se représente pas, dans des œuvres classiques. La peinture ou la sculpture. Alors il peut se représenter en sollicitant l'imaginaire à travers des histoires. Il fallait donc sans cesse évoquer la vie divine à partir des réalités terrestres qui prendront valeur de signes. Dans le VTB, le vocabulaire de théologie biblique, quand il y a une petite astérisque à côté d'un mot, ça veut dire qu'il renvoie à une autre notice. Ça veut dire qu'ailleurs dans le dictionnaire, vous trouvez une notice qui explique les signes. Ils prendront valeur de signes. Et notamment, par exemple, chez Saint Jean, on qualifie volontiers les miracles de Jésus du mot de signe, c'est-à-dire ce que Jésus fait extérieurement a une valeur de sollicitation pour la foi intérieure. Par exemple, la guérison de l'aveugle-né, à la fois réalise concrètement la guérison de cet homme et a valeur de signe, à tel point que les interlocuteurs sont amenés à se poser la question, est-ce que nous serions nous aussi des aveugles ? Les anthropomorphismes, c'est-à-dire une manière de parler de Dieu en utilisant inévitablement des repères humains. Les anthropomorphismes, si nombreux dans les vieux textes, sont symboles qui contiennent en germe de véritables paraboles. Genèse 2, c'est par exemple, c'est Dieu qui modèle Adam de la glaise. L'homme connaît le travail du potier, ce que veut dire modeler la glaise. Il utilise cette réalité-là comme pour parler de l'action créatrice de Dieu, mais c'est un procédé anthropomorphique, si l'on peut dire. Ces anthropomorphismes seront plus rares dans la suite, mais le souci d'évocation n'en sera que plus fort. Vous allez voir Ézéchiel en son chapitre 1, une vision inaugurale, où on essaie d'évoquer la gloire de Dieu qui, par définition, est transcendante à travers un vocabulaire très imagé. La vie de l'homme elle-même, dans son aspect moral et religieux, avait besoin de ces rapprochements. Les prophètes en usent abondamment, aussi bien dans leurs invectives que pour énoncer les promesses divines. Leurs invectives, on vous donne des références, par exemple Osée 4,16, Israël est qualifié de vache rétive. Et qui voudrait qu'on le traite comme un doux agneau. Non. Donc Osée a le sens de l'image. Que pour l'énoncer des promesses divines. Par exemple, la référence d'Isaïe 11, 6 à 9, c'est le fameux passage que vous connaissez bien, le loup habitera avec l'agneau, l'enfant s'amusera sous le trou du cobra, etc. Une manière d'exprimer le royaume eschatologique dans son accomplissement à travers une sorte d'imagerie terrestre marquée d'utopie. Enfin, en même temps, c'est une promesse divine. En même temps, il n'y a pas que le langage qui peut être symbolique chez les prophètes. Il peut y avoir aussi des actions symboliques, des prédications mimées. Le Seigneur, parfois, demande à un prophète d'avoir un comportement incongru, une vieille marmite qui se rouille, etc., pour signifier ce qu'il advient dans l'histoire du peuple et l'interpeller. De véritables paraboles se rencontrent aussi dans les livres historiques pour illustrer tel fait important de l'histoire sainte. Par exemple, la référence de 2 Samuel 12, 1 à 4, c'est le fameux oracle de Nathan à David. C'est-à-dire, pour lui faire comprendre sa faute, un homme n'avait qu'une petite brebis, etc., et son voisin l'avait apprise. On voit bien que le fonctionnement parabolique marche, David réagit. Le procédé s'amplifie dans le judaïsme tardif jusqu'à devenir chez les rabbins une véritable méthode pédagogique. Faits imagés ou histoires du passé viennent à l'appui de l'enseignement d'écriture introduit par la formule « à quoi cela est-il semblable ?» disait le mot « parabole » met en jeu un rapprochement, une comparaison. À quoi cela est-il semblable ? Jésus s'insère dans ce mouvement en annonçant fréquemment les symboles porteurs de son message par des introductions analogues. À quoi comparerais-je le royaume des cieux ? Le royaume des cieux est semblable à des gamins qui jouent sur la place, etc. Et en fait, ce que Jésus veut dire, il est semblable à ce qu'évoque toute cette histoire. Il n'est pas semblable directement aux gamins, mais il est semblable au fait qu'il y en a qui jouent de la flûte et des danses, et on n'entre pas dans la danse, on récrimine contre Jésus, glouton et buveur. Il y en a qui jouent des chants de deuil, et on ne se lamente pas, c'est-à-dire on récrimine contre Jean-Baptiste. Donc, le royaume des cieux est semblable à, la comparaison n'engage pas seulement le premier terme qui va venir après. Souvent, semblable à ce que signifie cette histoire que je voulais vous raconter. C'est ça qui est sous-entendu. Illustrant, portée religieuse et paraboles, illustrant avec les réalités concrètes de la vie quotidienne leur enseignement sur le sens de l'histoire sainte, les prophètes en font de véritables thèmes. Le pasteur, le berger, le mariage, la vigne, c'est la référence donnée plus bas d'Isaïe 5, ce qu'on appelle le champ de la vigne. Mon bien-aimé avec une vigne, il en prit soin, etc. Elle n'a donné que de mauvais fruits, puis on comprend que c'est une accusation contre Israël qui ne donne pas les fruits espérés. Le pasteur, le mariage, les références d'Osée et d'Ézéchiel que vous avez se rapportent. Le mariage d'Osée devient comme une parabole d'un rapport d'épousaille, un rapport nuptial entre Dieu et son peuple. Son épouse infidèle, il ira la rechercher au désert, etc. Donc, on parle de réalité, le pasteur, le mariage, la vigne. Bien qu'on puisse y trouver aussi des allusions plus précises à telle ou telle attitude morale, même telle situation sociale déterminée. En Juge 9, là, la référence que vous avez, 9, 8 à 15, ça se réfère à l'apologie de Yotam. Donc vous avez le récit, on va voir si on a le temps de le lire, mais en page 5, vous voyez qu'il y a un encart, la page 5 que je vous ai donnée, parabole de partout, la fable de Yotam. Voilà un exemple, puisque vous l'avez sous les yeux, je le lis rapidement. Les arbres s'étaient mis en route pour aller oindre celui qui serait leur roi. Ils dirent à l'olivier, règne donc sur nous. L'olivier leur dit, vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent au figuier, viens donc toi régner sur nous. Le figuier leur dit, vais-je renoncer à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Les arbres dirent alors à la vigne, viens donc toi régner sur nous. La vigne leur dit, vais-je renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens donc, toi, régner sur nous. Mais le buisson d'épines dit aux arbres, si c'est loyalement que vous me donnez l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Alors la petite explication en italique, donc ça c'est le texte biblique. Comment cette fable, qui est critique à l'égard de l'institution royale, évidemment, est appliquée par la suite du texte à l'accession sanglante d'Abimélec à la royauté. C'est-à-dire, ils ont voulu à toute force un roi, d'autres ont décliné, c'est un buisson d'épines, ils ont voulu accepter le buisson d'épines, et bien, ils le rencontrent. Ça, c'est l'exemple de Juge 9. Je reviens à nos feuilles. Troisièmement, parabole et allégorie. Il arrive que l'histoire symbolique n'offre pas seulement une leçon globale, mais que tous les détails aient une signification propre qui requiert une interprétation particulière. C'est-à-dire que chaque trait de la parabole est expliqué comme signifiant autre chose. C'est ce que veut dire le mot allégorie. Allos, c'est autre. Agoroein, ça veut dire parler. Donc, autre chose est dit entre les lignes. Et Jésus commente certaines paraboles de manière allégorisante, en disant le semeur, c'est le bon grain, c'est le bord du chemin, c'est chaque. On reprend trait par trait et on lui donne une signification allégorique. C'est déjà le texte dans certains cas de l'Ancien Testament. On retrouve ce procédé dans les paroémies du quatrième évangile. C'est l'occasion pour lui de souligner que le quatrième évangile, Saint Jean, ne contient pas le mot parabole, mais il y a deux fois le mot paromoïa, c'est-à-dire comparaison, similitude, on pourrait dire, similitude. Et en fait, les deux similitudes qu'on trouve chez Jean, qui n'a pas d'autre parabole, c'est là où Jésus dit, mais en jeu, je suis le bon berger qui donne sa vie et le distingue du mercenaire, etc. Et au chapitre 15, c'est la similitude de la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, mon père, etc. On retrouve ce procédé allégorisant, donc qui interprète chaque trait de l'histoire dans les similitudes du quatrième évangile. En fait, les paraboles comportent souvent au moins quelques traits allégoriques. Ainsi, Jésus parlant du Dieu d'Israël sous les traits du maître de la vigne. Les évangélistes accusent ce caractère en suggérant déjà une interprétation. Ainsi, Matthieu allégorise en votre Seigneur le Seigneur de la maison dont Jésus parlait en parabole. Dans ce passage, l'évangéliste fait comprendre que le Seigneur, dit-il, viendra à l'improviste. Et puis on entend dans la bouche de Jésus qu'il parle d'un maître de maison qui revient à l'improviste, bien même du Fils de l'homme. Donc on a, au terme concret de la parabole, un maître de maison se superpose déjà une terminologie qu'il interprète allégoriquement en disant mais ce maître qui reviendra à l'improviste, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je passe à la page 4. Luc rapporte la parabole du bon samaritain en des termes qui font penser au Christ. Il y a déjà aussi une tendance d'interprétation allégorisante, notamment quand il dit « il est pris de compassion », un terme qui d'habitude est réservé à Jésus dans le récit, à la vue des foules, que le bon samaritain il est pris aux entrailles à la vue du blessé. Et on comprend que cette manière de s'exprimer oriente déjà l'interprétation dans un sens christologique, comme on dit, centré sur le Christ. La présentation apocalyptique. Dans la prophétie de l'Ancien Testament, beaucoup plus qu'aux énigmes des sages, c'est à la présentation volontairement mystérieuse des écrits tardifs qu'il faut recourir pour expliquer le caractère énigmatique de certaines paraboles évangéliques. Le mystère de Dieu est tellement profond qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est un langage pas toujours accessible. Le mystère au sens biblique, ça dit la profondeur des réalités divines, mais qui ne peut se dire si facilement, qui demande à être explicité. Dans les religions à mystère de l'Antiquité, il y avait aussi une mentalité qui pratiquait des rites cachés, secrets, des paroles réservées à des initiés, mais là, c'était une autre perspective. C'était justement, notamment dans les courants gnostiques, il n'y a que les initiés qui vont avoir accès à la connaissance, etc. Tandis que lorsque Jésus s'exprime de manière un peu cachée, d'abord il commence par expliquer clairement aux disciples, et si nous lisons ça aujourd'hui dans l'Évangile, ça veut dire que l'explication n'est pas demeurée cachée, elle est désormais accessible à tout croyant. Donc le mystère ne s'appréhende pas facilement, directement, il ne faut pas croire trop vite avoir compris, mais justement, tout le travail spirituel, c'est progressivement d'entrer dans la profondeur du mystère. Comme dit Jésus, rien n'est caché qui ne doive être révélé. Donc, ce n'est pas la perspective de religion mystère, mais la perspective biblique apocalyptique. Le mot apocalyptein veut dire révélé. Donc, l'Apocalypse elle enveloppe volontairement le contenu de ce qui finalement vise à se révéler dans une série d'images qui ont besoin d'explications pour être comprises. Et d'ailleurs, la présence d'un ange interprète fait généralement ressortir la profondeur du message et sa difficulté. Le voyant a une vision, et puis il a besoin d'un ange interprète qui lui explique les choses. Parce que ce n'est pas simplement hauteur humaine, c'est Dieu qui se révèle, et donc il a besoin d'une parole explicatrice. Ainsi, l'allégorie de l'aigle en Ézéchiel 17, appelée énigme ou parabole, dans le texte hébraïque Machal, est expliquée ensuite par le prophète. Vous irez lire ce beau chapitre 17, d'Ézéchiel. Les visions de Zacharie comportent un ange interprète et surtout les grandes visions apocalyptiques de Daniel. Donc on est en train, au passage, de citer les prophètes qui usent d'oracles et de visions à visée apocalyptique, c'est-à-dire en langage d'abord secret, mais qui va, par l'explication, être explicite. Ézéchiel, Zacharie, Daniel. On arrive ainsi à un schéma tripartite. Symbole, ou histoire un peu énigmatique au départ, demande d'explication, on a besoin d'un ordre, application du symbole à la réalité, l'explication. Donc, une histoire donnée, puis on se dit, on ne comprend pas trop, on va devoir être aidé, deuxième phase, et pourquoi parle-t-il de manière si cachée, et troisième phase, l'explication qui est donnée. Dans l'Évangile, le mystère du royaume et de la personne de Jésus est si neuf qu'il ne peut lui aussi que se manifester graduellement. Et l'auteur pointe de traits de cette progressivité de la révélation. D'abord, ce qu'on a appelé, surtout à partir de l'Évangile de Marc, le secret messianique, c'est-à-dire que chaque fois que Jésus dit, ne dites pas trop vite que je suis le Messie. Il demanda à ses disciples de ne parler, au moment de la transfiguration, à personne de la vision, sauf au moment où il serait ressuscité d'entre les morts. Et eux se demandaient ce que voulait dire. Donc, il faudra encore du déroulé d'histoire pour comprendre vraiment. Et donc, il ne faut pas se précipiter pour dire à tort et à travers, c'est le Messie, sans avoir compris de quel Messie il s'agit, qui doit encore passer par la croix. Donc, le secret messianique va dans le sens qui respecte cette progressivité, la révélation, et puis aussi le langage parabolique. Il aime aussi parler en parabole, qui tout en donnant une première idée de sa doctrine, oblige à réfléchir et ont besoin d'une explication pour être parfaitement comprise. On arrive ainsi à un enseignement à deux degrés, cette question n'est pas la plus heureuse, mais on voit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a l'énoncé de l'histoire dont l'ensemble des auditeurs peut déjà percevoir quelque chose, ils sont mis sur la voie, mais il y a un deuxième niveau qui est réservé en un premier temps aux disciples. Bien sûr, ils auront charge plus tard dans à faire les porte-paroles autour. Mais les disciples ont droit à un approfondissement de la doctrine donnée par Jésus lui-même. Jésus raconte l'histoire, et puis on voit qu'il change de lieu, il entre dans la maison, un autre lieu, il a un autre auditoire, ce ne sont plus simplement les foules, tout venant, mais les disciples, et là, il explique plus en profondeur. Leurs questions rappellent alors les interventions des voyants dans les apocalypses. Les disciples aussi sont intrigués, pourquoi explique. Et à un moment donné, on verra, explique-nous la parabole du bon grain de l'ivraie. C'est lui qui pose la question. Ainsi, les paraboles apparaissent comme une médiation nécessaire pour que la raison s'ouvre à la foi. Plus le croyant pénètre le mystère révélé, plus il entre dans l'intelligence des paraboles. Inversement, plus l'homme refuse le message de Jésus, plus l'accès aux paraboles du royaume lui devient interdit. Jésus dit à un moment donné, ceux du dehors, ils n'auraient pas encore donné de comprendre le mystère, de comprendre. Il dit, cette phrase étonnante, « À qui a, il sera donné, celui qui n'a pas, il sera même enlevé ce qu'il a. » Que veut dire Jésus ? Celui qui a commencé à ouvrir son cœur et à recevoir, c'est un chemin de croissance. Il lui sera encore donné davantage. Et celui qui, au point de départ, s'est fermé, n'a pas voulu avoir un refusal minimum, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Pour que vous compreniez l'expression, inversement, plus l'homme refuse le message de Jésus, plus l'accès aux paraboles du royaume lui devient interdit. Il faut une attitude d'ouverture. Les évangélistes soulignent ce fait qu'en frappant de l'endurcissement de nombreux juifs en face de l'évangile, ils montrent Jésus répondant aux disciples par une citation d'Isaïe, que l'on verra tout à fait en détail, qui dit en substance, de leurs yeux ils ne voient pas, de leurs oreilles ils n'entendent pas, et fondamentalement parce que leur cœur s'est endurci. Et donc ils ne peuvent pas, s'ils se ferment, ils ne peuvent pas comprendre. Cependant, à côté de ces paraboles apparentées aux apocalypses, il y en a d'autres qui sont d'emblée plus claires. Mais tout n'est pas énigmatique ou difficile. Elles visent des enseignements moraux accessibles à tous. Et ils donnent des références, les références font allusion ici à la lampe, qu'on ne met pas sous le boisseau, mais pour qu'elle éclaire la maison, au bon samaritain, qui ne demande pas beaucoup d'explications, c'est quand même très parlant, et à l'ami important qui va solliciter l'autre pendant la nuit pour avoir de quoi manger pour exemplifier l'invitation à prier avec confiance. En se remettant, troisièmement, l'interprétation des paraboles. En se remettant dans ce contexte biblique et oriental où Jésus parlait, c'était le point grand 1 de la notice, et en prenant garde à sa volonté d'enseignement progressif, dans une dynamique de dévoilement apocalyptique, c'était le point grand 2, il devient plus facile d'interpréter les paraboles. Leur matière, ce sont les humbles faits de la vie quotidienne, mais aussi et surtout peut-être les grands événements de l'histoire sainte. Leur thème classique, aisément repérables, sont déjà chargés de sens par leur arrière-plan d'Ancien Testament au moment où Jésus les utilise. Jésus ne part pas à zéro, il les puise dans le trésor des Écritures aussi. Aucune invraisemblance ne doit étonner dans des récits librement composés et ordonnés tout entier à l'enseignement. Le lecteur n'a pas à se choquer de l'attitude de certains personnages présentés pour évoquer un raisonnement a fortiori ou a contrario. Et donc comme référence, l'intendant futé là, qui a une dette et il s'en sort pour mouler, pour s'en sortir. Mais la pointe, c'est que Jésus dit, mais si pour des affaires mondaines, quelqu'un est déjà assez malin pour s'en sortir comme ça, il faudrait que les fils du royaume soient quand même un peu plus éclairés eux aussi. Ou bien une autre référence qui donne au chapitre 18, c'est le juge inique. Si déjà un juge avec le cœur dur cède aux pressions de la femme qui insiste, ça convient. Plus forte raison, c'est un argument fortiori, le Père Céleste va-t-il faire justice à ceux qu'il appelle les sans retard. Ou bien la parabole d'hier, hein, l'ouvrier de la 11e heure, dans un premier temps, est un peu choquant. Moi, j'ai un frère plus jeune qui était ouvrier toute sa vie, comme une âne à la mûre, il avait des longues journées, parfois fatigantes, mais il ne digère pas cette parabole, l'ouvrier de la 11e heure, hein, c'est même pas si facile. De toute façon, il faut d'abord mettre en lumière l'aspect théocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu, et plus précisément christocentrique. Parce que les paraboles du Nouveau Testament, par rapport aux paraboles de l'Ancien Testament, elles ont ceci en propre, au moins, c'est qu'elles mettent en jeu, évidemment, un nouveau personnage central qui est le Christ. Christocentrique, la plupart des paraboles. Quelle que soit la mesure exacte de l'allégorie, c'est en définitive le Père des cieux ou le Christ lui-même, soit dans sa mission historique, c'est Jésus qui sème la parole au moment où il parle, soit dans sa gloire future, il viendra comme un voleur, comme un maître qui demande des comptes à ses disciples, ou comme un époux, vierge sage et vierge folle. Donc Jésus, soit dans sa mission historique, soit dans sa gloire future, eh bien, est le personnage central évoqué le plus souvent. Et quand il y en a deux, ce sont le Père et le Fils. Par exemple, au chapitre 21 de Matthieu, les vignerons homicides. Le maître de la vigne, c'est quand même le Père, mais qui finit par envoyer son propre Fils pour recevoir le fruit. Donc les deux sont mis en scène par Jésus. Tant il est vrai que l'amour du Père témoigné aux hommes par l'envoi de son Fils est la grande révélation apportée par Jésus. C'est le thème central de Saint Jean. Mais on trouve son analogue, différemment modulé, dans les paraboles aussi de Jésus, qui parle quand même souvent du rapport de Jésus à son Père. À cela servent les paraboles qui montrent l'achèvement parfait que le nouveau royaume donne au dessein de Dieu sur le monde. Voilà, je me suis dit que c'était mieux de parler plutôt que de vouloir construire moi-même toute une leçon d'introduction, de partir de ce bon article que je trouve du VTB. Ça vous donne une idée de ce qu'on y trouve, mais je trouve la notice permet en une leçon d'avoir déjà quand même un arrière-fond. Alors j'ai promis de terminer en chantant une chanson qui sera une mise en appétit pour le cours suivant, dont je vous ai déjà donné le matériau. À savoir la parabole du semeur et son explication. Donc je vous ai mis déjà le texte sous une forme synoptique. Ce sont les pages 6, 7, 8 que vous avez. Vous avez la version de Matthieu, la version de Marc et la version de Luc, puisque c'est une de ces paraboles de la triple tradition, c'est-à-dire que l'on trouve chez les trois. Alors la parabole du semeur, vous la connaissez déjà suffisamment pour comprendre l'adaptation qu'en a faite Robert Lebel. Robert Lebel, c'est un Canadien qui fait de bonnes chansons. Certaines sont directement à usage liturgique, mais la plupart sont à usage par la liturgie, c'est-à-dire des veillées d'animation religieuse, etc. Et je trouve qu'il compose bien au point de vue musique et parole. J'aurais voulu la faire entendre parce que l'orchestration est belle, mais je ne l'ai que sous la forme d'un disque vinyle. Moi, j'ai gardé un vieux tourne-disque et je trouve que les vinyles rendent parfois aussi bien que les CD. Mais je ne pouvais pas amener toute l'affaire ici, donc j'ai essayé de la prendre.
Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole se met dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du matin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain. Les grains germés dans un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés. La parole a brûlé au soleil du faux Dieu. Dieu a semé la parole comme on sème le grain. Les ronces sont venues et les ont étouffées. La parole est tombée sous le nœud des passions. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés. La parole a donné cent tuple de moisson. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.
C'est du gospel, et dans l'enregistrement, il y a un chœur de voix féminine africaine. Donc, la fois prochaine, préparez-vous à aborder la parabole du sème.